La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré. Et au menu de notre club cet après-midi, une expédition autour d'une meute de requins en Polynésie, un spectacle de danse autour de la question des pôles, et puis encore un peu d'intelligence artificielle à l'occasion d'un hors-série qui vient de paraître avec France Inter et Libération. Et je vous présente bien sûr mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la Une de la Science, aujourd'hui une découverte archéologique qui nous fait remonter au Moyen-Âge.
Oui, on va s'intéresser aux dents d'une mystérieuse nonne morte il y a quand même 1000 ans. Le médecin légiste et archéo-anthropologue Philippe Charlier est avec nous et il va nous aider à percer ses secrets.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Irène Menahem avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités qui sont nombreux cet après-midi, Manon Ansart, Laurent Balestal, Luc Maresco, François Benahim, Erwan Cario, Sophie Becherel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Je crois que j'en ai oublié d'ailleurs, mais ils sont tellement nombreux que... Voilà, Christian Benahim est également avec nous. Laurent Balesta et Luc Maresco, vous venez nous présenter le DVD 700 requins dans la nuit, qui montre donc cette expédition que vous avez filmée en Polynésie autour d'une meute de requins. Laurent Balesta, c'est un rassemblement absolument unique en son genre. Il faut aller vite d'ailleurs pour le filmer, hein.
Ah oui, c'est des comportements qui échappent un peu à l'œil humain. Donc il a fallu redoubler de techniques de prise de vue, de ralenti, enfin voilà, c'était bien compliqué, mais c'était magique, hein, c'était magique.
Voilà, on va décrire cette expédition. Luc Maresco, vous, avec vos caméras et toute votre équipe, est-ce qu'on se sent à l'aise finalement au milieu de toutes ces bêtes?
En fait, Laurent et son équipe avaient plongé pendant 4 ans en amont. Donc j'avoue que s'ils n'avaient pas fait ça, j'aurais eu un peu peur. Mais là, leur attitude et leur sérénité a fait que j'ai pu plonger sans trop d'appréhension. Il y a eu des aventures quand même.
Oui, on va en parler tout à l'heure. Vous allez nous décrire justement ce tournage hors du commun. Sophie Becherel, votre coup de cœur cette semaine consacre un spectacle de danse.
Oui, autour du Grand Nord. Et donc nous recevons pour cela Christian et François Benahim, auteurs de cette chorégraphie intitulée Mirage, les âmes boréales. C'est à la fois un voyage sensoriel, onirique dans le Grand Nord et peut-être aussi une alerte sur la disparition de ce monde. C'est ça ?
Oui, c'est bien résumé, effectivement. Et tout ça par le prisme de la danse mêlé à d'autres arts, la vidéo, la musique et également une scénographie mouvante et changeante.
Ouais, et Christian, vous partez en tournée, hein, c'est ça, ça y est, c'est parti pour...
En fait, la tournée, effectivement, a démarré depuis novembre et là, il y a une grosse tournée qui se présente jusqu'au mois de juin.
Voilà, 80 dates dans toute la France, il y en aura donc pour tout le monde. Et puis enfin, on va parler de ce hors-série consacré à l'intelligence artificielle, publié par Libération, qui est sorti en partenariat avec France Inter. Manon Ansart, vous avez justement participé à ce hors-série en tant que doctorante à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et on apprend qu'on peut utiliser l'IA pour prédire l'évolution des maladies neurodégénératives.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour modéliser la maladie. Et ensuite, d'adapter le modèle à des nouveaux patients pour prédire leur évolution et voir s'ils vont développer peut-être la maladie un jour.
On verra comment ça se passe et si c'est vraiment un usage courant aujourd'hui. Erwan Cario, vous êtes journaliste justement à Libé. On va faire le tour de ce hors-série avec vous tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. Une centaine de pages. On va essayer d'aller vite, quoi.
Voilà, pour décrire tout cela. Et c'est le sommaire de ce club aujourd'hui. Vous nous rejoignez bien sûr, vous qui nous entendez avec vos messages sur l'ensemble de ces sujets. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Voilà une musique qu'on entend peu d'habitude dans La Tête au Carré, Héloïse Rambert, qui nous invite au recueillement pour cette Une de la Science.
Oui Mathieu, parce que c'est une religieuse allemande qui aurait vécu entre le 10e et le 12e siècle et qui fait la une aujourd'hui. Un article qui vient de paraître dans la revue Science Advances lui est consacré. Pourquoi une telle mise à l'honneur, me direz-vous, alors que cette nonne, morte selon les scientifiques entre 45 et 60 ans, n'a a priori vraiment rien de particulier? Eh bien parce que parmi la vingtaine de dépouilles de la nécropole qui a été étudiée par les scientifiques, la sienne est sortie du lot. Un pigment bleu a été retrouvé figé dans le tartre resté sur ses dents, ce qui laisse penser qu'elle aurait pu avoir des activités insoupçonnées pour son époque. Pour en parler, on est avec Philippe Charlier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc médecin légiste et archéo-anthropologue et vous êtes aussi directeur de recherche au musée du Quai Branly. Qu'est-ce que les scientifiques cherchaient à savoir en premier lieu en fouillant dans cette nécropole ?
En fait, quand on étudie une nécropole, qu'elle soit ancienne ou récente, on a des squelettes qui sont à disposition et ils permettent de reconstituer l'état de santé des populations du passé. C'est une sorte d'ambassadeur. Donc on doit diagnostiquer le sexe, l'âge au décès et puis aussi toutes les maladies, faire les liens génétiques entre individus. Bref, savoir pourquoi ils sont là, comment ils ont vécu, comment ils sont morts. Donc c'est un examen qui est maintenant systématique.
Alors pourquoi regarder spécifiquement le tartre dentaire des dépouilles ?
Alors pour travailler sur les restes humains anciens, on utilise les techniques de l'anthropologie physique et de la médecine, mais aussi de l'odontologie. Les dents, les vôtres, les miennes, celles des auditeurs, eh bien, à la surface de nos dents, c'est normal, on vient de manger. Là, on ne s'est pas tous brossé les dents, moi notamment.
On va tous avoir.
Et du coup, on a à la surface de nos dents un truc génial qui est la plaque dentaire.
Ou la feuille de salade, parfois, mais bon.
Mais justement, ça fait partie de la plaque dentaire. Donc, des petits débris alimentaires, de la salive, des cellules qui sont desquamées. Et si on ne se brosse toujours pas les dents ce soir... Et les jours d'après, eh bien, ça va cristalliser au fur et à mesure et devenir ce qu'on appelle le tartre dentaire. Donc vous l'avez compris, tout ce qui est rentré à l'intérieur d'une bouche va cristalliser au fur et à mesure et du coup va être visible par les archéo-anthropologues du futur. Ça permet donc de reconstituer non seulement l'alimentation de l'individu, ses maladies, notamment parasitaires ou bactériennes ou virales, mais également l'activité de l'individu parce qu'on utilise parfois notre bouche comme troisième main.
Et donc, chez cette node en particulier dont on parle aujourd'hui, ils ont fait une découverte étrange. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Oui, ce sont des petits cristaux bleuâtres, assez intenses, de lapis lazuli, on appelle ça de la lazurite en termes géologiques, qui ont été retrouvés, non pas sur des résidus de tartre dentaire d'une dent, mais de façon vraiment diffuse à l'intérieur de ce qui restait de la bouche de cette femme, de cette nonne, véritablement. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que c'est une observation qui est objective, d'abord en microscopie, optique, puis électronique à balayage, confirmation ensuite sur le plan cristallographique et élémentaire, donc on est sûr que c'est vraiment du lapis lazuli. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette bouche ? Et c'est là que le travail scientifique de sciences fondamentales vient s'interpénétrer avec les sciences humaines, l'archéologie, la philologie, etc.
Et c'est vraiment la question qui nous intéresse. Comment est-ce possible que ce bleu se soit retrouvé sur les dents de cette nonne ? Est-ce qu'il y a des hypothèses qui ont été formulées ?
Alors, quatre hypothèses principales. La première, c'était que c'était une sorte de monial copiste, si on peut dire, c'est-à-dire une femme chargée de transcrire et réécrire des textes, mais également de faire des enluminures. Et auquel cas, eh bien, en mettant son stylet dans la bouche, par exemple, ou au moment d'une projection ou autre, elle aurait pu mettre ces pigments qu'elle utilisait de façon courante à l'intérieur de la bouche et ensuite, ça se cristallise.
C'était courant que les femmes pratiquent cet exercice ou pas ?
C'est pas très connu. On sait que la femme, dans ce contexte du Moyen-Âge, n'a pas du tout cette image d'épinal exclue complètement. Elle participe vraiment de la vie quotidienne. Donc, ça renseigne pas particulièrement les historiens, mais ça éclaire de façon assez iconique. En revanche, trois autres hypothèses très très vite. La première, c'est qu'elle était chargée de préparer les pigments, c'est-à-dire les moudre et les broyer. Et donc là, c'est quelque chose qui se vaporise, qui se volatilise facilement. Donc, quand on a la bouche ouverte parce qu'on a le nez bouché, par exemple, eh bien, ça vient se fixer à la surface des dents et on a un peu les dents bleues, mais surtout le tartre dentaire bleu. Et puis, deux autres possibilités, qu'elle ait utilisé ces pigments, le lapis lazuli, comme traitement. Quand on a des vers intestinaux, quand on a des abcès, quand on a des saignements, eh bien, les pierres peuvent être utilisées selon une pharmacopée antique qu'on utilisait encore au Moyen-Âge. Et puis, il y a une dernière hypothèse que, personnellement, je trouve la plus belle.
Vous terminez donc par elle, hein, pour que ce soit celle qu'on retienne.
Exactement, c'est rhétorique.
Bravo.
Il s'agit du fait d'embrasser les images saintes. On est dans une communauté ecclésiastique, c'est une pratique qui persiste toujours dans la communauté orthodoxe, grecque ou russe par exemple, d'embrasser les icônes. Eh bien, sachez que ça se faisait également dans ces communautés entre le 9e et le 11e siècle. Et le fait d'avoir embrassé de façon quasiment systématique, peut-être un peu forcenée, peut-être bigote, eh bien, du coup, ça a fini par s'imprimer littéralement dans son propre corps. Je trouve ça d'une poésie magnifique.
Et il n'y a donc aucune de ces hypothèses pour l'instant qui est privilégiée. Tout reste ouvert.
Tout reste ouvert, mais vous avez compris, les scientifiques des sciences fondamentales sont là pour apporter des données qui sont fiables et irrévocables. Charge ensuite aux historiens des sciences humaines, on va dire, d'exploiter ces données brutes. Donc, voilà. À suivre.
À suivre. Et c'est une belle histoire, finalement, qui se révèle avec ce lapis-lazuli, là, dans
Et vous savez que l'archéologie donne quand même très, très souvent de belles histoires, comme l'anthropologie également, et comme les objets de musée. Cette technique-là, on l'utilise, nous, couramment, au musée du Quai Branly, sur les restes humains.
Donc, on a compris que si on voulait laisser une trace dans l'histoire, il fallait arrêter de se laver les dents dès aujourd'hui.
C'est exactement Charlie, c'est ce que j'avais demandé, Mathieu.
Bon, on va faire des économies de dentifrice. Merci beaucoup à vous pour ces explications. Et puis, Héloïse Rambert, on se retrouvera lundi avec une nouvelle une de la science.
À lundi.
As a man.
Et c'était la voix d'Anna Calvi.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Avec cet après-midi une expédition autour d'une meute de requins, un spectacle de danse consacré au pôle et puis un hors-série sur l'intelligence artificielle. Sujet du club avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous rejoindre. Laurent Balesta, on va commencer avec vous parce que vous allez filer juste après votre intervention au salon de la plongée sous-marine. C'est en ce moment, hein, tout le week-end à la porte de Versailles. Vous allez tenir une conférence, c'est ça?
Oui, tout à l'heure à 3h. Oui.
Et sur quel thème?
Ah, rien à voir avec les requins, un animal beaucoup plus calme et plus lent, le limule.
Le limule.
Cet arthropode qui n'a pas évolué depuis des millions d'années et que je suis allé rencontrer cette année aux Philippines dans des eaux très troubles. Et je me suis surtout aperçu qu'on s'était plus, personne n'avait fait un travail de photographie digne de cet animal. Enfin, en tout cas,
qui méritait mieux, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, méritait mieux, vraiment. Alors, c'était bien parce que du coup, j'avais un beau sujet à traiter que les autres n'avaient pas traité avant.
Donc, votre rencontre avec les limules, c'est tout à l'heure à 15h
au salon. C'est beaucoup plus calme que les 700 requins de Fakarava.
Alors, vous êtes biologiste marin et photographe et donc avec Luc Maresco, qui est également avec nous, qui est réalisateur, vous venez nous parler de ce documentaire. Donc, 700 requins dans la nuit, qui sort en DVD, ce sera le 5 février prochain chez Arte Édition. Je crois qu'on peut déjà voir des images sur le site d'Arte. Film époustouflant qui raconte donc cette expédition que vous avez menée en Polynésie, qui a duré 4 ans. C'est 4 années pour arriver justement à filmer quasiment une seule nuit de rencontre.
On y est même retourné cette année, ça fait 5.
Ouais.
Mais il fallait ça, hein, il fallait ça d'abord pour... La première année, on était dans la sidération, on bouge pas. On est devant un truc qu'on découvre, c'est monumental, ça nous dépasse complètement. Et on ne sait pas si on peut s'approcher, on ne sait pas comment le filmer, on ne sait pas comment l'éclairer, on ne comprend pas comment ils agissent. C'est voilà, mais évidemment c'est fascinant et à chaque année on franchit une petite étape et d'abord celle de se sentir à l'aise au milieu de cette meute de requins, le jour où on comprend que c'est impressionnant mais que ce n'est pas risqué réellement. Ouais. Et à partir de là, il faut mettre cette idée, le retranscrire dans le comportement.
C'est ça.
Et puis petit à petit, au final, on était vraiment au milieu de cette meute, en pleine chasse, à se faire bousculer, mais on n'était que des obstacles.
Alors quand ça bouscule bien, parce qu'on le voit sur les images, mais c'est vraiment...
Oui, il y a quelques points de suture même, mais c'est des bousculades, voilà, c'est comme quand on est au milieu d'une foule humaine.
Ouais. Ça, vous n'êtes pas une proie, vous êtes un obstacle plutôt
pour les animaux. On les inquiète un peu. D'ailleurs, le jour, quand ils ne sont pas en phase de chasse, on n'arrive pas à les approcher, ils s'écartent à notre arrivée, on les inquiète plutôt.
Ouais.
Et la nuit, ils sont plutôt dans cette attitude « tant pis ». Ils sont là, tant pis pour eux. Parce qu'ils savent qu'ils ont seulement la nuit pour se nourrir, qu'au petit matin, la plupart d'entre eux n'auront rien mangé, de toute façon. Et donc, même si on est là, tant pis pour eux. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, ils nous bousculent, mais il n'y a pas d'agression, et surtout pas de tentative de nous dévorer ou ce genre de fantasme. Ouais.
Là, c'est le mérou qui est au menu
C'est surtout le pauvre mérou qui vient se rassembler chaque année par milliers, qui lui vient là parce qu'il a besoin de la passe pour pondre et que ses œufs soient projetés dans l'océan grâce au courant de la passe.
Ouais.
Donc, il vient dans cette passe. Et c'est l'embuscade parfaite, quoi.
Ouais, alors justement, avant de discuter avec Luc Maresco, qui a filmé avec ses équipes, cette rencontre extraordinaire, expliquez-nous d'un point de vue géologique ce qu'est une passe, parce que vous l'expliquez dans le documentaire, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, au fond, ces atolls polynésiens. Ouais. Là.
Visuellement, c'est très simple. On voit l'atoll, c'est cette couronne de corail. Ouais. Hein, vu du ciel, on voit juste une couronne.
D'accord. Et là, on voit les images, d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'un atoll, en fait, c'est une montagne. Hein. Ce qu'on voit, c'est le bord d'une montagne.
Qui est posée sur 3000 mètres de fond, à peu près, en tout cas dans les Tuamotu, c'est comme ça, et qui arrive jusqu'à la surface. Et donc, il y a cette couronne de corail qui affleure à peine au niveau de la surface. Et puis, à un endroit, deux endroits, trois endroits autour de cette couronne, il peut y avoir des fractures. On appelle ça des passes.
Ce sont des vallées, passage, en fait.
Ouais,
des vallées
sous-marines. Un canyon,
qui sont souvent liées à d'anciens cours d'eau, d'anciens fleuves.
Ouais. Donc, qui relie l'océan au lagon. Mais il ne faut pas oublier que le lagon, lui, c'est un peu l'empreinte d'une île volcanique qui était là au milieu, il y a, dans le cas des Tuamotu, 70 millions d'années. Et c'était une île sur laquelle il pleuvait, des rivières coulaient. Et les endroits où les rivières formaient un estuaire, et cet estuaire se jetait en mer, là, le corail ne pouvait pas pousser. Donc la barrière de corail qui se constitue autour de l'île volcanique originelle marque l'empreinte de l'île, sauf à l'endroit des estuaires, des rivières, parce que là, le corail ne pousse pas. Et puis, le volcan disparaît, la couronne, elle, se maintient puisqu'elle est vivante. Et les passages, les passes, c'est la marque des anciens estuaires de ces fleuves.
Ouais, et c'est un lieu privilégié justement pour la biodiversité marine.
Oui, parce que c'est un flux permanent à cause des marées, courant rentrant, courant sortant. Et donc il y a un flux. Parce que quand si on analyse juste à un moment donné, on peut se dire que c'est des eaux pauvres. Mmh. C'est des eaux très très claires, il n'y a rien.
Ouais.
C'est limpide. Parce qu'il ne faut pas imaginer ça comme quelque chose de figé. C'est un flux nourricier permanent. Et là où le flux est le plus important, c'est évidemment dans les passes où le courant des marées entraîne ce flux et ce reflux permanent.
Et donc c'est un hotspot pour les requins et les mérous.
Ouais, les requins viennent s'y reposer le jour. Ils profitent de ce courant léger, ils se mettent à des endroits. Et comme les oiseaux en formation, là, ils se mettent dans le courant, ils ne bougent pas, ils économisent de l'énergie, ils se reposent pour rentrer en scène à la nuit tombée.
Luc Maresco.
Du coup, on pourrait imaginer que ça se passe pareil dans toutes les passes, mais en fait, c'est aussi c'est ce que le biologiste Laurent Balesta m'a appris, mais c'est aussi parce que la force du courant dans cette passe-là est en même temps assez forte pour attirer les requins qui viennent se reposer à l'étal dans le courant, et en même temps assez faible pour que le corail puisse se développer, parce que on est allé visiter d'autres passes et le courant est tellement fort que tout est érodé.
Ouais. Alors justement,
là, c'est un miracle de la nature de Polynésie.
Un lieu tout à fait particulier et un rassemblement tout à fait inédit au monde. C'est-à-dire cette concentration de poissons-là, de mérous ou de requins, on le voit nulle part ailleurs.
On les a comptés plusieurs fois par semaine, on les comptait chaque année.
Il y a 705 requins.
Ouais, c'est le chiffre maximum. C'était le chiffre maximum. Il y a eu des comptages à 300 aussi.
Et 18 000 mérous.
Ça, c'est plus compliqué à compter.
Ouais. J'imagine.
Mais évidemment, autant les requins, on les a comptés un par un facilement, puisque le jour, ils ne bougent pas, ils sont plutôt immobiles. Il suffit de traverser le mur que forment ces requins pour les compter. Ouais. Les mérous, c'est une extrapolation. On compte dans des couloirs de 5 mètres de large sur 200 mètres de long. Mmh. Et ensuite, on cartographie toute la passe. C'est la zone où sont présents les mérous et on multiplie. Voilà.
Alors, Luc Maresco, justement, vous avez réalisé ce film 700 requins dans la nuit, là, qui va sortir en DVD. Vous avez beaucoup travaillé pour Ushuaïa avec Nicolas Hulot. Est-ce que vous aviez déjà plongé parmi les requins à l'époque d'Ushuaïa ou pas?
Oui, on avait plongé avec les requins blancs. Enfin, en l'occurrence, les équipes avaient plongé avec les requins blancs. Ouais. Mais c'était en Afrique du Sud, donc les plongeurs se protégeaient par le kelp.
Oui.
C'est une sorte de grande laminaire d'algues. Et en fait, les requins blancs ont du mal n'osent pas rentrer dans ces parties-là. Et donc, du coup, en tant que plongeur, on était sans cage. Et du coup, on peut observer le requin blanc en étant à l'orée de la forêt d'algues.
Voilà. Ouais, là, c'était pas du tout le cas. Vous étiez au
milieu
de la
bestiole. Moi, là, je l'ai regardé en surface d'en haut. Ouais. Voilà. Donc, là, mais là, en fait, c'est Laurent qui m'a convaincu. C'est-à-dire que, en fait, Laurent m'avait proposé de partir avec lui sur certaines expés. Le problème de Laurent, c'est que, en fait, c'est soit une plongée à 180 mètres.
Donc là, il faut être un très bon plongeur.
Ouais, voilà. Donc, il faut être très bon plongeur. Soit c'est une plongée avec des crocodiles, soit c'est une plongée qui dure 24 heures. Et moi, en tant que réalisateur, j'aime bien être sur le terrain et vivre la matière. Donc, à chaque fois, c'était, je vais pas trop pouvoir te suivre. Et là, il me dit, mais là, tu peux venir. C'est juste à 30 mètres. Ouais. J'ai un petit niveau de plongée, mais qui me permet de faire ça. Et donc, j'y suis allé. Et c'est vrai qu'au départ, quand on prend l'avion et qu'on a ses bagages et ses caméras, on ne sait pas trop si on va y aller. Puis on a dit, je regarderai les images en surface. Et petit à petit, l'attitude de l'équipe, la sérénité qu'elle développe après ces quatre années, la première année, mais après ces quatre années, on se dit, OK, on y va.
Et d'ailleurs, Laurent Balesta, vous aviez les meilleurs aussi avec vous, parce que vous avez fait venir des spécialistes des requins du monde entier, et qui d'ailleurs, eux-mêmes, n'avaient jamais vu ce rassemblement. On va écouter un extrait du documentaire qui témoigne de la surprise qu'ils ont ressentie en voyant justement ces animaux.
T'as compté tes doigts, tu les as tous ? Non, moi ça va, j'ai mes gants.
Vous savez, j'ai fait de la plongée partout dans le monde avec les requins, mais je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'était incroyable.
Ah, je suis si content d'entendre ça de la part de quelqu'un comme toi.
C'était dingue.
Regardez sa tête.
En 25 ans de plongée, j'ai dû assister à une prédation seulement une ou deux fois.
Et ici, tu sais même pas combien.
J'ai arrêté de compter.
Ouais, t'as arrêté de compter.
Oui, parce que là, ça croque dans tous les sens, Laurent Balesta. Ouais, c'est le mérou qui devient un sandwich, quoi, finalement.
Ouais, mais il faut
mais pas, pas si non, facilement.
Il faut
que ça,
pas
d'ailleurs.
Imaginer que le requin est le truc surpuissant et la proie, le petit animal faible, tout ça. Ils ont tous évolué en même temps pendant des millions d'années. Les proies sont pas si vulnérables que ça du tout. Les requins sont pas si redoutables.
Et pas si doués que ça, d'ailleurs.
Non,
pour
quand ils chassent
leur...
seuls, ils font 100% d'échecs quasiment.
Ouais, c'est ça.
Quand ils chassent seuls. Après, le principe de cette meute, de cette chasse plus ou moins coordonnée, consciemment, inconsciemment, peu importe. Fait que leurs statistiques montent. Elles montent énormément puisqu'elles sont supérieures à une meute de loups, ou à la réussite d'une meute de loups. Sachant que les loups, après, il y a un vrai partage de la proie avec des priorités, chefs de meute, machin. On est chez des mammifères très... Là, non, la coopération s'arrête au moment où il y a la prise, et là, c'est de la pure compétition derrière.
Ouais, il y a une question de François Benahim, justement, pour vous.
Et justement, comment ils communiquent entre eux? Est-ce qu'ils ont des signes qui s'entraident dans la chasse?
Oui, mais c'est très instinctif. Il n'y a pas de communication. On avait des acousticiens, mais on n'a jamais, nous et avant nous, les autres chercheurs, jamais entendu le son d'un requin. A priori, les requins n'émettent pas de son. Et plus encore, ils ont une peau qui fait qu'il n'y a même pas le bruit des turbulences dans l'eau. Ces écailles dermiques en émail font que autant un banc de poissons qui démarre, quand on est un plongeur, se retourne quand un banc de poissons démarre. Ça, ouais. On l'entend vraiment comme n'importe quel troupeau de terrestres presque qui démarre. Il y a un bruit qui se passe. Un requin qui démarre, c'est parfaitement silencieux. Donc non, il n'y a pas de communication sonore. Maintenant, ils ont tous leurs organes sensoriels. Et puis, il y a un effet de binôme. Ça a été une des choses qu'on a mis en évidence. Au milieu de la meute, il y a des paires de requins qui se forment, qui restent ensemble le temps d'une nuit, et où l'un va servir de rabatteur à l'autre.
Ouais. Alors, ça, vous avez pu voir aussi avec les émetteurs que vous avez posés, parce que ça fait aussi partie du documentaire, c'est tout ce travail de pouvoir poser à l'intérieur du requin, justement, des balises.
Des petites puces électroniques.
Pour les suivre ensuite. Ouais. Luc Maresco, c'était quoi la difficulté, finalement, pour les équipes, là, pour filmer 700 requins comme ça, au milieu, vraiment, de la meute?
Déjà, il y avait une super équipe. Yannis, qu'on a entendu là dans l'extrait, il nous disait, c'est vrai que j'ai tourné 25 ans avec les équipes de National Geographic et BBC, et il disait à l'équipe de Laurent, il disait, vous avez la meilleure équipe que j'ai jamais rencontrée en 25 ans. Donc on a pris des cadors, et la grosse difficulté, c'est que l'événement majeur, qui est la reproduction des mérous, se tient à un moment particulier, ça dure une demi-heure.
Ouais.
Et en fonction, il y a l'équinoxe le 21 juin, et en fonction de la pleine lune, suivant comment elle est calée, l'événement peut arriver à la pleine lune de mai ou arriver à la pleine lune de juin. Donc du coup, par sécurité, quand on fait un film, on dit « bon ok les gars, on y va à la pleine lune de mai » et on reste jusqu'à la pleine lune de juin. Et là, on a 5 cadors de la plongée qui veulent tous faire les meilleures images, et on plonge et on a un mois d'images. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé avec 360 heures d'images. Et donc du coup après c'est un tri, c'est savoir qu'est-ce qui raconte le mieux cette histoire-là.
En tout cas c'est probablement la première fois qu'on voit aussi de cette façon-là les requins, Laurent Balesta, avec aussi ce mouvement de la mâchoire qui vient happer la proie, ça c'est hyper impressionnant.
Ça c'est l'idée qu'on a eue la première année, 2014, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ces requins. Et j'ai dit, il faut de l'ultra ralenti. Et je me souviens, parce qu'en 2014, on n'avait pas des super moyens, et on est allé, on a attendu la fin de Roland-Garros pour pouvoir récupérer une des caméras qui filme les balles, vous savez, sur la ligne, donc à très 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 haute vitesse.
Ouais.
Et du coup, on l'a eu à moindre frais, parce que voilà, on a attendu la fin de Roland-Garros. Voilà.
Et ça a permis de filmer justement les mouvements des requins.
Et oui, ça a permis de filmer à 500 images, à 1000 images par seconde, les attaques de requins. Ouais.
Voilà, on va laisser vraiment aux auditeurs le soin de découvrir ce film avec tous les aspects, évidemment, biologie, marine, et puis tout l'aspect tournage aussi, hein, parce qu'on voit vraiment comment vous avez travaillé avec un procédé de rail extraordinaire, une arche de caméra.
L'effet Matrix.
Voilà,
l'effet
pour Matrix. Voir vraiment absolument en 3D quasiment les requins tournoyer autour de vous. Ça s'appelle 700 requins dans la nuit, c'est un DVD qui sort le 5 février chez Arte Édition. Et vous filez donc, Laurent Balesta, au salon de la plongée sous-marine.
Et oui, parce qu'il y a le livre éponyme.
Voilà, exactement, qui est sur le site de la Tête au Carré, et à 15h vous êtes là-bas donc pour une conférence. Donc vous filez, il vous reste 29 minutes pour arriver Porte de Versailles.
Ça devrait aller. Merci.
Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on parle d'un sujet qui vous aurait intéressé. On va parler d'épaule aussi, mais du point de vue de la chorégraphie et de la danse. C'est un spectacle qui arrive.
Emma, je ne sais pourquoi. Emma, mais Emma-t-elle, Emma, pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là?
Emma, mais ma télé, ma moi.
Quand on s'ennuie, on se dit que c'est beau, la vie. La loupe pas, elle passera qu'une fois. Entre les cordes d'une mélodie, la sol fa si, c'est pas si fa, sol la.
Si tu le veux, on s'en fout plein les yeux. Entre les dents, la chair et du ciment. Au pire du mieux, on sera seul, on sera deux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Emma, Emma, je ne sais pourquoi. Emma, mais Emma-t-elle, Emma, Emma, pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là?
Emma, Emma, mais Emma-t-elle, Emma, moi?
La 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 la.
Y'a pas la vie si y'a pas la folie. La lâche pas, elle passera qu'une fois. Dans de bien belles, belles mélodies. Si ré la do, c'est pas doré, si la.
je sais pas si mieux, mais je te boufferai les yeux. On est vivant tant qu'il est temps, encore temps. Comme on est deux, on sera seul, on sera mieux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment.
Emma, Emma, je ne sais pourquoi, Emma.
Emma, telle Emma, Emma, pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, 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 telle Emma, moi. Telle Emma, Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, 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 telle Emma, moi. Emma, 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 pourquoi moi?
Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là?
Emma, Emma,
Emma, telle Emma, moi.
Voilà la rencontre entre les têtes raides et la voix de Jeanne Moreau avec Emma.
La tête au carré, le club.
La suite de ce club avec le coup de cœur de Madame Sophie Bécherel, comme toutes les semaines.
Mirage, les âmes boréales, une chorégraphie. Alors je vous donne juste quelques éléments de ce qu'il y a sur scène. Un décor plutôt minimaliste, hein, une tente igloo, des panneaux de feutre. Vous nous direz d'ailleurs si c'est du feutre, sur lesquels sont projetées des images, des visuels. Et puis donc deux danseurs et là-dessus un univers sonore qui mêle la musique et les sons de l'Arctique. On va peut-être en entendre certains.
On entend d'ailleurs
certains,
la musique voilà. Là, en ce moment.
Et ouais. Donc c'est comme un voyage qui nous embarque dans des contrées dont on se fait tous une idée, hein, le pôle Nord, la banquise, mais où au fond on n'est pas vraiment allé. Enfin, peu d'entre nous.
Luc Maresco, il est certainement allé au pôle, Luc.
Alors pas au pôle géographique ni magnétique, mais pas loin.
Sur la banquise. Donc vous connaissez ouais. Ça, mais sinon nous autres, on en a des images. Est-ce que c'est aussi ça le point de départ, Christian et François Benahim, c'est-à-dire l'idée que vous aviez ou que vous avez du pôle, des pôles?
Oui, c'est vraiment la fascination enfantine qu'on pouvait avoir pour ces contrées et pour ces terres vraiment immenses, l'immensité, le côté aussi inhospitalier de ces terres, la blancheur, la vie donc difficile et cet endroit de la terre où l'homme est finalement ramené à une certaine humilité et où les conditions de vie le contraignent à certains mouvements, à certains rythmes de vie. Donc on s'est beaucoup intéressé et ce qui nous intéressait dans ce territoire-là, c'était l'influence que pouvait avoir l'environnement sur l'être humain et pour bien sûr un peu questionner le rôle de l'homme sur l'environnement.
Qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Est-ce qu'il n'y a pas de narration dans ce spectacle, hein? C'est plutôt impressionniste, mais vous avez forcément un message.
C'est sûr, en fait, on avait envie de raconter plusieurs histoires à travers ce songe un peu. C'est un songe un peu fantastique, un peu mystérieux, qui va venir finalement révéler notre monde et notre réalité, et notre actualité. Donc effectivement, on parle à la fois de deux êtres en exode, à la fois d'un igloo, le dernier igloo qui reste sur Terre, à la fois un glacier qui se transpire, qui fond. Donc voilà, c'est autant de thématiques effectivement très liées au réchauffement climatique, à l'écologie, qui voilà, on avait envie d'associer ce monde à la fois merveilleux et magique à ce déclin ou à ce questionnement en tout cas climatique qui nous concerne tous et qui nous touche tous.
Et l'intérêt que l'on porte dans notre travail se centre autour du thème de la métamorphose, de la transformation. Et il nous semble que c'est un territoire qui est constamment en transformation, bien sûr du fait des saisons, bien évidemment, mais aussi du fait de ce fameux changement climatique dont on entend parler. Et c'est sans doute l'endroit de la planète où il nous semble, en tout cas d'où nous sommes là, que c'est à cet endroit-là qu'on peut le remarquer de la manière la plus flagrante.
Mais c'était presque en tant que citoyen que vous aviez envie de faire ce spectacle, parce que vous n'êtes pas scientifique du tout, donc ces questions climatiques finalement. vous les maîtrisez peu.
On n'est pas scientifique. Cette pièce ne cherche pas à délivrer un message. Elle cherche plus à sensibiliser, à questionner. Et surtout, l'objectif pour nous, artistique et esthétique, était d'essayer de plonger les spectateurs dans un voyage immersif. C'est-à-dire que le son participe.
Ah, tout de suite, on y est tout de voilà, suite on avec est toujours le bruit du craquement voilà, du pack. Craquement.
Les images, donc la création visuelle également, qui joue de l'infiniment petit à l'infiniment grand pour essayer de reconstruire les perceptions qu'on peut imaginer avoir dans ce monde-là. Et la danse, bien sûr, on prendra le temps de dire que la danse, c'est un art qui propose un phénomène un peu particulier, celui de l'empathie kinesthésique. C'est-à-dire que
ça veut dire quoi ?
Eh ben voilà.
S'il vous plaît, éclairage.
Quand vous regardez quelqu'un danser, d'une certaine manière, vos cellules se mettent à faire un petit peu, de manière sans doute très infime, mais les mouvements qui sont réalisés par ce que vous voyez. Donc, d'une certaine manière, vous dansez par un
entremis.
Voilà. Et donc, du coup, on a essayé de retranscrire toutes ces qualités d'empêchement, de contrainte, de lenteur,
d'apesanteur,
également de résistance, dans la chorégraphie, dans l'écriture chorégraphique. Et donc, on espère bien que les spectateurs ressentent en voyant la pièce cette expérience-là, qui est bien sûr une expérience subjective, puisque on n'a pas été voyager dans ces territoires-là, bien qu'on ait pu recevoir des retours ou des récits.
Est-ce que vous avez dansé, Luc Maresco, sur la banquise ? Ça vous est déjà arrivé ou pas ?
Danser, non. Mais c'est vrai que ce sont des paysages incroyables. Enfin, moi, je suis très attiré par les déserts et les banquises. En fait, ces aplats de nature nous emmènent assez loin au niveau des réflexions, pensées philosophiques et autres. Donc, du coup, je pense que je vais tout de suite prendre les coordonnées du spectacle.
Ça se joue
et puis aller voir. Parce que c'est vrai qu'on est complètement différent dans ces milieux-là.
Et c'est vrai que l'une des dramaturgies de la pièce est effectivement cette fonte.
C'est ça, on va vers l'effondrement.
On va vers l'effondrement, vers la liquéfaction des glaces. Alors certes, c'est terrible sans doute pour notre planète, mais en même temps, on n'a pas voulu absolument nommer ce désastre où on le donne à voir d'une certaine manière. Et ce qui nous donne aussi l'occasion d'explorer chorégraphiquement toute une dimension aquatique du mouvement et qui me faisait penser un peu à ce ballet de requins. Voilà, c'est-à-dire qu'on a essayé de travailler sur toute une gestuelle qui évoque la dimension aquatique et donc qui nous passe du monde terrestre à celui subaquatique.
Oui, Christian Benahim, c'est vrai que la plasticité des corps permet ça. Donc vos deux danseurs, ils sont à la fois des humains, mais aussi le phoque, le renne, les âmes, le chaman. Enfin, c'est formidable tout ce qu'ils incarnent.
Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas envie que les deux interprètes jouent des rôles en termes de théâtre ou une histoire trop narrative, trop explicative. Donc on avait vraiment envie qu'ils soient comme des cellules, comme de la matière, qu'ils soient de l'eau, qu'ils soient la glace, qu'ils soient finalement des matières vivantes qui se transforment de l'humain à l'animal.
Qui sont les danseurs d'ailleurs ?
C'est Mylène Laminière et Félix
et Holm.
Voilà. Alors, il y a de l'humour dans ce spectacle, et avec très peu de choses. Par exemple, l'igloo qui va disparaître et se transformer en un drap sur lequel de nouvelles choses vont être projetées. Mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, les danseurs arrivent en polaire à capuche. Et là, les enfants en particulier, mais c'est l'extase. D'un seul coup, il y a du rire qui intervient parce qu'ils sont plein de choses avec leur polaire à capuche.
Oui, c'est vrai que il y a ce petit moment plus ludique et plus enfantin dans la pièce où les deux protagonistes arrivent couverts comme on peut l'être sans doute dans le Grand Nord. Et puis c'est un peu comme deux petits bonhommes qui se cherchent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Et puis on s'est inspiré aussi d'un jeu inuit qui est une lutte vocale. qui se fait vraiment face à face. Et on a utilisé ce son là, c'est vraiment un jeu de chant où les deux personnes se font face et par un travail de respiration, de son, sont dans un dialogue tout à fait singulier. Et on a utilisé ce matériau là pour créer une petite séquence assez comique, effectivement, et les enfants réagissent assez bien.
Juste un mot sur la bande son, parce que le musicien est quelqu'un qui vous a apporté un plus, là.
Oui, alors Philippe Le Goff, qui a composé la musique de la pièce, est compositeur et aussi un spécialiste du Grand Nord. Donc, il connaît, il a étudié la langue, il a étudié les modes de vie, les traditions, et donc il a été aussi une source pour nous de.
C'est un spectacle que vous avez voulu également pour le jeune public, hein, c'est ça?
Oui, alors.
C'est effectivement une pièce qui est à partir de 5 ans, ouais. On dit. Donc, effectivement, il y a beaucoup de séances scolaires et des séances tout public. Voilà, après, notre travail est souvent un travail très visuel, très imaginaire et accessible pour le jeune public et tout public. Mais cette pièce-là était orientée effectivement comme un message aussi, comme une manière de questionner les enfants à cette question-là de l'écologie et de la fonte des glaces.
Un mot sur la tournée quand même, très vite.
Il y a énormément de dates, ouais. Donc Kremlin-Bicêtre, Enghien-les-Bains, Saint-Quentin-en-Yvelines, Louviers, Dijon, Rochefort.
Est-ce que vous jouez près de Rennes? Parce que Luc Paresco, il habite dans le coin de Rennes.
Je serai là, près de la forêt de Bruxelles. On espère la saison prochaine venir à Rennes.
Ah ben voilà.
J'aimerais vous voir avant.
On est à Nantes aussi.
Et ben voilà, donc
très poétique, très onirique, c'est un très joli voyage.
Voilà, et ça s'appelle.
Et on n'a même pas parlé des Lumières, qui sont un festival final.
Les âmes boréales, c'est le titre. On peut avoir toutes les dates sur le site de la compagnie. J'imagine.
www.cfbenaim.com.
Et on mettra tout ça en lien sur la tête au carré, ça sera plus simple. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On parle d'intelligence artificielle dans un instant. Les robots pourraient aussi danser. Ils le font d'ailleurs déjà aussi.
Et bien sûr.
J'ai l'impression, soleil levant, collé sur la rétine. L'étoile s'écroule juste devant, dans le creux de la ville. J'ai l'odeur de la dernière danse, scotché dans les narines. L'écho de la sueur des gens se colle sur les vitrines. Les rues sur moi, les cœurs brisés, les rêves mouillés, je les cueille comme ça. J'ai l'odeur de la dernière chance coulée sur les habits, l'écho de la soirée. Liquide la ville.
l'étoile du Cachemire, c'était Dani Terreur.
Le club sur France Inter.
Voici le processeur. C'est le cerveau du robot.
Ça, un cerveau ? C'est quoi toutes ces pièces ?
Ce sont les éléments qui composent le caractère. Cette pièce, par exemple, c'est l'agressivité.
Et l'autre, là ?
C'est l'orgueil.
Alors là, elle est beaucoup trop petite pour être l'orgueil.
Maintenant, on va le mettre en marche.
Qu'est-ce qui se passe, là ?
Il réagit à ce qu'il voit. Il est en train de fabriquer une mémoire à partir de ses expériences. Comme un humain.
Voilà, extrait du film Eva, un cerveau artificiel, ce film argentin sorti en 2011 pour introduire notre sujet sur ce hors-série de Libération avec France Inter consacré à l'intelligence artificielle. Erwan Cario, vous êtes journaliste à Libération justement, et puis à vos côtés se trouve Manon Ansart, doctorante à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière au sein du laboratoire Aramis. Le cerveau artificiel justement, puisqu'on étudiait, on entendait un extrait à l'instant, ça serait une réalité, vous semble-t-il, un jour, on en est bien loin. On avait Stanislas Dehaene hier, c'est pour ça que je vous pose la question.
Cerveau artificiel, je ne sais pas. C'est pas exactement ce que nous on fait. Enfin, en tout cas, on va chercher à remodéliser ce qui se passe dans le cerveau pendant une maladie, mais de là à parler d'un cerveau artificiel avec sa mémoire propre et ses propres capacités.
On en est loin,
humaines,
apparemment. Ouais, c'est loin, la discussion qu'on avait hier même sur cette antenne. Erwan Cario, alors parlez-nous un petit peu de ce deuxième hors-série, parce qu'on avait travaillé ensemble sur le premier. Et Sophie est présente également avec des entretiens sur le second.
Bah en fait, le premier hors-série donc, qui est sorti à la fin de l'année 2017, c'était un premier hors-série pour essayer de comprendre et de transmettre ce qu'on avait compris, surtout de l'intelligence artificielle au lecteur, et surtout parce que c'est un sujet qui transporte avec lui des mythes et une mythologie et une sorte de magie liée à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est des discours qu'on entend concernant l'économie, l'emploi, le futur, vous l'avez dit, le cerveau artificiel, la conscience artificielle et ce genre de choses. Donc il y a toute une mythologie autour de cette intelligence artificielle, alors que c'est aujourd'hui très concret. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine, l'apprentissage statistique. C'est un domaine de recherche, c'est un domaine scientifique, c'est un domaine technologique qui est là et qui existe. Et en plus, il y a au-delà de ça de la recherche fondamentale qui cherche, elle, à aller plus loin, à aller vers des choses de l'ordre de la conscience ou le sens commun, en tout cas à donner le sens commun aux machines. Et donc on s'est rendu compte l'année dernière, on a essayé de faire une sorte de premier tour du sujet, et puis à la fin on s'est bien rendu compte
vous étiez tous frustrés.
Il fallait plus de place.
Voilà, Enki Bilal d'ailleurs qui re-signe finalement une nouvelle couve pour ce hors-série, et Sophie donc qui a été mise à contribution avec des entretiens aussi, hein.
Oui, 4 entretiens qui clôt les chapitre, et en fait je m'aperçois en écoutant Erwan Cario que moi j'ai surtout insisté sur l'aspect sciences humaines, c'est-à-dire hormis Nicolas Ayache qui est chercheur à l'INRIA et qui travaille sur la santé connectée, le patient numérique et qui effectivement est un chercheur qui a les mains dans la matière, on y trouvera Jean-Michel Beignet, philosophe des sciences, qui s'interroge sur le transhumanisme et
ce
rêve des
aussi,
années 70 qui a beaucoup évolué et qui le critique. Serge Guérin qui est sociologue et spécialiste du vieillissement et qui nous explique que selon lui les personnes âgées sont finalement bien plus augmentées que n'importe lequel d'entre nous parce qu'elles ont vu passer tellement d'évolutions technologiques, elles ont dû les absorber que elles sont finalement plus hype que vous et moi. Et enfin Pierre Lecaux sur l'éthique médicale. Alors l'entretien a été réalisé avant qu'on apprenne la création par la Chine de 2 bébés OGM. Et alors lui est assez optimiste puisqu'il terminait l'entretien à la question est-ce que vous ne craignez pas qu'on aille en Chine justement faire ce qui n'est pas possible ailleurs. Il disait que selon lui les Chinois n'auraient pas envie d'un homme sur commande, sur catalogue. Vous voyez que l'homme sur catalogue, il est là.
Ouais. Erwan Cario, il y a beaucoup de santé d'ailleurs dans ce nouveau hors-série, sur les applications possibles dans le domaine de la santé avec l'IA.
On s'est posé la question pour ce deuxième hors-série, et c'est vrai que une des applications les plus concrètes aujourd'hui et qui porte énormément de promesses, c'est le corps, c'est pour la médecine, c'est Manon qui ici là
on
y travaille beaucoup,
bien sûr.
Et ça pourrait être pour la radiographie. On sait que dans la reconnaissance d'images, l'intelligence artificielle est particulièrement efficace aujourd'hui, et c'est vrai que tout le travail de radiologue ou pour regarder les défauts d'une rétine par exemple, c'est une technologie technologie qui est actuelle, qui fonctionne aujourd'hui. Et puis et dans la santé du futur, évidemment, il y a tout là aussi, il faut démythifier énormément d'espoir, énormément de discours un peu fantaisistes, transhumanistes les délires de ce genre-là. Il faut aussi les remettre à leur place, dire que ce ne sont pour l'instant que des promesses qui engagent surtout et uniquement ceux qui y croient.
Alors Manon Ansart, mais c'est l'occasion de nous dire ce que vous faites exactement dans votre laboratoire avec l'intelligence artificielle. Alors c'est une réalité de quelle façon pour vous et comment vous l'utilisez ?
On va utiliser des bases de données qui sont souvent créées pour la recherche, pour permettre aux chercheurs de mieux comprendre des maladies. Et on va exploiter les données qui sont dans ces bases de données, c'est-à-dire des patients qui sont souvent à des stades différents de la maladie, qui correspondent donc chacun à un petit bout, chacun raconte un peu son histoire de la maladie, et on va recoller un peu tous ces morceaux pour avoir une idée générale de ce qui se passe dans la maladie, un modèle général, grâce justement à des techniques d'apprentissage automatique. Et ensuite, on va prendre ce modèle général et on va le personnaliser pour un nouveau patient, voir si lui, il colle à cette trajectoire de la maladie, donc si a priori il est malade ou s'il est plutôt sain, et voir où il se situe dans cette trajectoire pour savoir si, comment il va évoluer par la suite.
Et ça, c'est plus efficace qu'un clinicien, finalement, ou pas, d'après les travaux que vous menez, hein, parce que c'est encore des essais, finalement, hein.
Ça dépend sur quoi. En fait, pour dire si une personne est malade aujourd'hui ou pas, ça, on essaye de reproduire ce que fait un clinicien. Donc, a priori, on ne peut pas être plus efficace qu'un clinicien. Par contre, les cliniciens ne savent pas dire si une personne va être malade dans un an ou deux ans. Donc, quelqu'un qui vient avec des problèmes de mémoire, mais on ne pense pas encore qu'elle a Alzheimer, on ne peut pas lui dire si on pense qu'elle va avoir Alzheimer plus tard. Et l'intérêt de ce genre de modèle, c'est justement ça, c'est de pouvoir prédire le futur, ce qu'un clinicien ne sait pas faire pour l'instant.
Mais est-ce qu'on y arrive bien à le prédire ? Ou est-ce que c'est quand même très aléatoire encore aujourd'hui ? À la lumière de ce que vous faites encore, hein, quels sont vos résultats là-dessus ?
C'est pas très aléatoire, mais c'est pas encore parfait non plus. Enfin, c'est quelque chose qui est en cours et qu'on essaye toujours d'améliorer. On n'est pas au stade où on peut proposer quelque chose de fiable au médecin, mais c'est ce sur quoi on travaille. Et aussi, justement parce qu'on sait qu'il y a une part d'incertitude, c'est important de fournir au médecin pas juste une prédiction, mais aussi dire à quel point on est sûr de notre prédiction, et aussi des mesures que lui peut interpréter, donc pas juste malade, pas malade.
Bien sûr.
Mais on pense que ça va évoluer comme ça, il a des problèmes de mémoire. Enfin.
Avec toutes les questions éthiques que ça pose par rapport aux patients aussi, j'imagine, sur l'annonce possible ou non d'une évolution de la maladie.
Oui aussi, le but c'est pas... de nous donner une information comme ça au patient, mais de la fournir au médecin pour que lui puisse prendre une bonne décision, peut-être adapter le traitement et en parler avec son patient, mais c'est toujours des informations qu'on donne au médecin. C'est toujours pour le médecin.
Sophie Bécherel.
Dans toutes les données que vous utilisez, est-ce que ce sont les images et l'imagerie médicale sur laquelle l'intelligence artificielle est la plus avancée ? Parce qu'on apprenait en début de semaine qu'une intelligence artificielle et les algorithmes afférents ont pu détecter la maladie d'Alzheimer 6 ans avant les médecins.
Oui,
en travaillant donc sur les images des cerveaux des patients.
C'est surtout que dans les techniques d'imagerie, on peut voir des changements qui, pour Alzheimer, se produisent bien plus tôt que les pertes de mémoire, etc. Donc c'est lié à de l'intelligence artificielle, mais pas forcément. Je pense qu'avec certaines techniques d'imagerie, les médecins peuvent savoir plus tôt qu'un patient a des risques de développer la maladie. Parce qu'il y a des changements qui se produisent dans le cerveau
Les symptômes.
Oui, avant les symptômes.
Mais là, ce que vous venez de nous décrire, justement, Manon Ansart, c'est vraiment de la recherche pure aujourd'hui ou c'est déjà appliqué clairement auprès de malades ?
Non, c'est pas encore appliqué auprès des malades. Et je pense qu'il faut encore un petit peu de temps avant que ça puisse être appliqué. Et c'est sûr qu'il y a des questions éthiques aussi, comme vous le souleviez. Et je pense aussi qu'une première étape avant que ça aille dans la clinique, c'est que ça serve pour des essais cliniques, pour faire des médicaments pour Alzheimer, par exemple. Puisqu'on pense qu'aujourd'hui, on n'arrive pas bien à traiter Alzheimer parce qu'on essaye de le traiter trop tard, quand les dégâts sont déjà faits, qu'on n'arrive pas à enrayer le processus. Et que donc, peut-être qu'avec des techniques comme ça, on pourrait identifier les patients qui sont à risque de développer la maladie, et donc cibler ces patients-là, et peut-être avoir des traitements qui sont efficaces.
Erwan Cario, il y a la question des données, justement, qui est abordée dans ce hors-série, là.
C'est vrai que ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas pour le grand public, et quand on parle de Facebook et Google et les grandes entités, l'intelligence artificielle, c'est surtout et avant tout le traitement des données, et il y a toute une question sur quelles données on utilise pour faire quel algorithme et pour avoir quel résultat, et c'est vrai que il y a une interview notamment de Cathy O'Neill, une mathématicienne un peu lanceuse d'alerte sur ce sujet des données, où elle explique qu'on on peut faire dire ce qu'on veut à des données en les passant dans le
Elle
dans
était
le
ce matin chez Ali Rebéi d'ailleurs, hein, si vous voulez réécouter son interview, elle était invitée de son émission ce matin. Ouais.
Et ben c'est, elle est vraiment passionnante et c'est vrai qu'elle elle alerte comme ça sur ce sujet-là que on peut mettre n'importe quelle donnée dans une intelligence artificielle, leur faire dire finalement ce qu'on veut et elle appelle ça du blanchiment des données, je trouve que l'expression est assez juste.
Voilà, donc c'est ce deuxième hors-série qui est actuellement dans les kiosques Libération et France Inter associés ensemble, comment l'intelligence artificielle change nos vies et donc cette IA au cœur de l'humain. Vous avez encore quelques jours pour pouvoir vous procurer ce hors-série.
Oui.
Merci beaucoup, on passe à l'agenda. Sophie Bécherel, qu'est-ce que vous avez noté pour nous ce week-end en France?
On reste, figurez-vous, dans l'intelligence artificielle et le transhumanisme avec encore trois représentations de la pièce Le Temps des Hommes au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Après avoir été créée à Vanves et puis jouée à Villejuif, cette pièce sur un secret de famille au temps du transhumanisme est une œuvre collective. C'est la première mise en scène de Nicolas Giré-Famin, métisse et adopté, qui se dit taraudé par cette question des origines et de l'identité. C'est pourquoi il a voulu travailler là-dessus. Et donc, en fait, là, dans ce monde là, eh bien, les êtres biologiques qui restent sont relégués à la marge. Qu'est-ce qu'il va leur manquer malgré tout? Voilà, ça se joue donc encore ce soir, demain soir et dimanche en matinée. À Grenoble, l'exposition « Servir les dieux d'Égypte » se poursuit jusqu'au 27 janvier. C'est une exposition événement par la richesse des pièces présentées. Elles viennent du musée lui-même, car figurez-vous qu'à Grenoble, il y a un fonds d'égyptologie extrêmement riche. C'est le quatrième le plus riche en France, après le Louvre, Lyon et Marseille. Donc il y a des statues, des enveloppes de momies, des bijoux, des vases, des papyrus, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses. Certaines d'ailleurs viennent d'autres musées européens dont le British Museum. Et le thème exploré, c'est le rôle du clergé féminin au sein du temple de Karnak à Thèbes qui est devenu Louxor. C'était un important centre religieux en Égypte. Donc voilà, il y a 270 pièces présentées et puis tous les vendredis soirs, c'est nocturne jusqu'à 20h30. Donc si vous voulez y aller, ça se passe à Grenoble. Enfin à Paris, au musée des plans et reliefs, une exposition sur le Mont Saint-Michel, mais une exposition avec un casque de réalité augmentée, ce qui fait que c'est plan relief qui servait au départ à des fins militaires, hein, pour essayer de voir comment on assiégeait ou on défendait la forteresse, en l'occurrence le Mont-Saint-Michel, eh bien, ont été utilisés là avec un casque de réalité virtuelle pour voir un petit peu les dessous du Mont-Saint-Michel. C'est donc jusqu'au 14 janvier au musée des plans et reliefs à Paris.
Et toutes les infos du week-end sont sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup Sophie Bécherel. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Et puis on met les infos également sur les rendez-vous dont on a parlé cet après-midi et le spectacle Les âmes boréales en particulier. Passez un bon week-end à l'écoute de France Inter. Merci à Philippe Duclos à la technique.